Où est-ce qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans l'émission du Syndicat du Commerce et de la Restauration de la Confédération Nationale du Travail, animée en direct chaque 1er, 3e et 5e lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire sur les ondes de Radio Libertaire.
Running wild, lost control. Running wild. L'édito du lundi 1er mai 2023 du Monde Merveilleux d'après. Alors, nous devions inviter Norbert de la Fédération Anarchiste, avec qui nous, syndicalistes révolutionnaires, devions débriefer la mobilisation du 1er mai, aboutissement de déjà 3 mois de contestation de la réforme des retraites. Mais il n'est pas là. Donc, on a 2 autres invités.
De renom et de prestige.
Martine.
Bonsoir.
Et Michael.
Salut.
Alors lui, c'est pas tout à fait un invité, mais il revient, ça fait 1 an qu'on ne l'a pas entendu.
Tant que ça.
Dans
la grotte, le temps passe plus vite.
Oui. Donc cette journée internationale de lutte ouvrière n'a pas été déclarée par les institutions spécialisées des Nations Unies, telles que l'UNESCO, l'UNEF, la FAO, la Food and Agriculture Organization, connue en France comme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'OMS, etc. C'est bien une journée internationale de solidarité des travailleurs établie par les travailleurs eux-mêmes. Alors pour ceux et celles qui auraient manqué cette mobilisation à Paris parce qu'ils vendaient du muguet au pied de la Tour Eiffel, voulez-vous un CR, à compte-rendu, et vous l'aurez, à l'écoute du monde merveilleux du travail, avec encore les effets des gaz lacrymogènes dans le museau. Et tout de suite, sans plus attendre, notre chronique collective, l'almanach culturel de l'actualité brûlante sur le thème de la violence.
Déguisé en flic, sales enculés, c'est bien foutu leur combine.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse la reconnaître.
On ne regrette pas sa soirée.
Vous savez, quand il est agent, c'est le plus charmant des hommes, avec même de l'éducation.
Et instruit, capable de causer tout.
Chers auditeurs, chères auditrices, ne vous y trompez pas. La frivolité et la décontraction affichée des édiles de la République bourgeoise, à l'instar de Rima Abdul-Malak, ministre française de la Culture et de la Communication, et Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, dansant en concert privé de Jazzy pendant que les rues de France sont en ébullition, le chant improvisé d'Emmanuel Macron dans Paris en pleine nuit après son allocution calamiteuse, son interview dans les colonnes de PIF, la célèbre revue pour enfants, le 20 février dernier, en pleine crise sociale contre la réforme des retraites, l'interview de Marlène Schiappa, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans Playboy, le magazine à l'histoire sordide marquée par de nombreuses affaires d'agression et de harcèlement sexuel, toute cette débauche de guimauverie ubuesque, ces choix d'exhibition corporelle tribale ou d'expression médiatique régressive ne sauraient dissimuler le caractère brutal et violent d'une politique sociale d'un gouvernement cannibale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous abordons la violence. Et la violence, elle est aussi déjà dans les propos tenus par nos chers politiciens. Hein, et les manifestations agacent les politiciens, surtout celles-ci devraient prendre une tournure de promenade familiale, plus encore que des manifs pacifique. Et j'ai entendu sur une radio concurrente, dirons-nous, Un policier dont je me souviens plus le nom, hein, qui disait qui parlait à propos. Alors c'était surtout de Sainte-Soline, puisque certains présentaient Sainte-Soline comme une manifestation, mais quelque chose de bucolique, un petit peu. Voilà. Donc la réponse de ce politicien, c'était: quand je fais une promenade avec mes enfants, je ne prends pas de cocktail Molotov. Voilà. Donc en plus d'être de mauvais parents, les manifestants sont des terroristes. Voilà. Donc le déferlement de qualificatif fantaisiste donné aux émeutiers bobos, sauvages, par les tenants du pouvoir et les menaces de dissolution des collectifs anti-tout, affiche un mépris de la démocratie populaire, de la liberté d'expression qui était au cœur de notre précédente chronique accable du 17 avril dernier. Des chefs de parti de droite qualifient même de lâches les manifestants cagoulés, les plus déterminés des cortèges de tête, alors qu'ils sont les cibles de première ligne des forces de l'ordre étatique, fortement carapassonnés, eux, et utilisant des armes de guerre pour les réprimer. D'ailleurs, la haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU interpelle la France au sujet des violences policières. Oui. Même l'Iran dénonce la répression policière. Bon là, on sent bien toute l'ironie d'un gouvernement qui n'a rien à apprendre des autorités françaises.
On m'a dit qu'en Corée du Nord, on dit aux gens, si t'es pas contente, qu'aller vivre en France. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a dit.
C'est possible. En tout cas, c'est ce qu'on peut trouver dans certains médias, puisqu'ils sont aussi complices de la violence. Ainsi, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, certains médias, après avoir relayé la violence des casseurs, je cite, des anarchistes, je cite encore, de l'ultra-gauche, des éco-terroristes, etc., présente la violence au Soudan, eh oui, entre factions rivales, comme s'enfonçant dans l'anarchie. L'anarchie a toutes les couleurs et tous les goûts. Leur développement de l'information précisera le chaos, je cite, dans ce pays d'Afrique. C'est toujours intéressant de voir comment les médias français ont plus de facilité à critiquer la politique militariste étrangère que celle de leur propre pays, de leur propre président, de leur propre gouvernement. Et surtout, faire des associations d'idées discriminatoires. Il n'y a guère que dans certains médias étrangers que l'actualité est traitée de manière un peu objective, on va dire, et respectueuse de la réalité sociale. Le même jour, le tournant, je cite, autoritaire de la Tunisie est décrié. Eh oui, c'est pas bien. Les gardes à vue d'opposants politiques au gouvernement de Kais Saied semblent émouvoir l'opinion médiatique sans que cela ne jette un regard sur les agissements arbitraires de la police nationale française, cocorico. Mais il faut bien cultiver notre jardin. Et là, c'est une citation, hein. Tous les événements se sont enchaînés dans le meilleur des mondes possible. Et on demandera à nos auditeurs de qui sont ces quelques mots.
Ces quelques mots voltairiens.
un indice alors.
Ah bah oui, il ne faut pas tout dévoiler, il faut laisser un petit peu à tout le monde. Donc, tout ça se conclut souvent par de la répression, par les forces de l'ordre. Hein. C'est un petit peu le sujet de notre chronique ACAB. L'acronyme, c'est ça, hein. Actualité brûlante de le...
Oui, je sais pas.
Non, je sais même plus, l'almanach. L'almanach culturel de l'actualité brûlante. Donc, en marge des manifestations, des fouilles sont opérées. Et ce, jusqu'à 600 mètres des lieux de rendez-vous. Des amendes de 135 euros sont distribuées à la sortie des métros pour incitation à la fomentation de manifs improvisés. Les gardes à vue remplissent les commissariats de jeunes ou moins jeunes qui ont eu le malheur d'avoir oublié leurs lunettes de piscine, considérées comme des armes par destination, dans leur sac à dos. Alors, cette multiplication des fouilles et arrestations n'ont qu'un objet, le fichage, et notamment S, massif du plus grand nombre, et l'intimidation des moins expérimentés ou des dissuadés les plus pusillanimes, parce qu'en général, ceux qui se font choper, à quelques exceptions prêtes, c'est des jeunes qui se trouvent dans le cortège de tête, mais qui passent pour des black blocs auprès des médias, mais qui ne sont pas forcément des black blocs. Donc, quant aux plaintes contre les tabassages en règle et réglementées par nos gardiens de lapins, ce n'est pas l'IGPN qui rendra justice aux éborgnés et mutilés de toutes sortes. D'autant qu'il semble que de plus en plus des couples de policiers en civil tentent de se joindre aux manifestants sauvages et inciteraient les jeunes, les moins aguerris, à allumer des feux de poubelle ou à lancer des caillasses qu'ils ont eux-mêmes plein les poches sans pour autant en lancer aucune. Mais ça, faut être sur place pour les voir. Et quand tu fais montre d'avoir repéré le manège du couple, il décampe illico. C'est pas une preuve, ça ? Ça, c'est pas des... J'invente pas, hein. C'est du vécu, ça. Enfin, nous noterons l'entente cordiale entre les différentes polices européennes. Il n'y a pas de Brexit qui tienne chez Interpol. Ernest, notre camarade de la maison d'édition La Fabrique, a été interpellé à Londres alors qu'il se rendait au Salon du Livre. C'est vrai que les nazis considéraient la littérature comme une arme par destination.
L'insurgé, son vrai nom, c'est l'homme qui n'est plus la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. On peut le voir aux barricades, descendre avec les camarades, riant, blaguant, risquant sa peau. Et sa prunelle décidée s'allume aux splendeurs de l'idée, au reflet pourpré du drapeau. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. Il comprend notre mère aimante, la planète qui se lamente sous le joug individuel. Il veut organiser le monde pour que de sa mamelle ronde coule un bien-être universel. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé.
On parle du... Voilà, vous venez d'entendre... Alors, cette chanson a été mise exprès pour Eric. Je sais qu'il aime bien les chansons atypiques, on va dire ça comme ça. Hein ?
Oui.
C'était Raymond Souplex qui interprétait l'insurgé. Je pensais que c'était l'insurrection aujourd'hui. Je lui dis, tiens, j'ai proposé ça comme chanson. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit l'insurrection. Mais ça a pété quand même un peu, la manif. Puisqu'on est là, sur Radio Libertaire, dans le monde du travail, pour parler de la manif qui a lieu aujourd'hui, qui doit peut-être encore continuer, là, je ne sais pas où ils en sont.
Ouais, ça chauffe encore. Ouais. Je suis repassé tout à l'heure en sortant des vignoles, les flics couraient dans tous les sens.
Le micro,
la police courait de partout, dans tous les sens, donc ils doivent aller sur des points un peu chauds. Quoi,
surtout c'est qu'ils ne sont pas organisés, s'ils courent dans tous les sens.
Oui, aussi.
Bon. Donc il y a un espoir.
Mais il faut dire qu'on n'a qu'une demi-expérience de la manif, parce qu'elle a été coupée en deux. Et qu'apparemment, oui, c'est la CFDT qui a violemment agressé les policiers. Enfin, on m'a dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai.
Il va marquer le coup, Berger.
Il se radicalise.
Je vais laisser mon nom dans l'histoire.
Terro-syndicaliste, non, comment syndicaliste terroriste.
Ouais, syndicalo-terroriste.
Ouais.
Voilà, donc effectivement, la manif, donc ça devait être suffisamment important pour qu'on soit obligé de scinder en deux le cortège. Donc une manif de délestage qui s'est dirigée vers Père-Lachaise, donc on est passé devant la maison des Vignoles.
Ouais.
Bon, c'était long à partir.
Ouais,
hein, parce que déjà le cortège principal qui était parti, on les a vus partir en fait, il n'y avait plus personne.
Ils sont arrivés avant qu'on parte.
Et nous à la CNT, on était les derniers, hein, après la CGT, et c'est long. Ils sont nombreux quand même à la CGT, puisque on a mis un petit peu de temps. C'était un peu chiant.
Il y avait du monde à la CGT, ouais.
Bah, toujours.
Il paraît qu'il y avait toute l'Europe de réunion. C'était la CGT européenne.
Ah oui,
bah, oui.
Bah, pas la CGT espagnole.
Non, mais toute l'Europe était réunie.
Avec nous, c'était
Qu'est-ce que la CFTC, apparemment, j'étais au moins aussi nombreux que la CNT. Donc, il n'y avait pas grand monde. J'ai pas vu, hein, j'ai pas. Enfin bon.
Ouais.
Voilà. En tout cas, il y a eu un cortège de délestage, là, vers Père Lachaise, qui était très tranquille, très pépère. Il n'y a pas eu de casse, rien, que des chants. Il n'y a pas eu de danse, il n'y a pas eu de rhum, mais.
Du rhum.
Voilà. Pas de rhum pour boire, tu sais, des tequila, des machins, d'alcool, quoi. Hein, c'était pépère quand même.
Ouais, ouais, violet, c'était mais tranquille, c'est pas... ouais.
Parce que de l'autre côté, par contre, là où il y a la CFDT...
Ouais, c'est chaud, là.
Bravo, hein, bravo. Et quand je pense que M. Berger, il est prêt à rencontrer la Première Ministre, Mme Borne...
Ouais, il s'est engagé, hein.
Ben, j'ai pas, c'est pas, il va intérêt à lui faire des belles excuses. Bon. ces petits moments d'amusement.
Et de venir avec une bombe, Berger va savoir. C'est vrai, ouais. On sait pas.
Se radicalise.
Un petit bâton, ouais.
Berger.
C'est pas une lumière, c'est pas une la lampe Berger. Oh, excusez-moi, c'est facile, c'est un peu facile, puis un peu nul. Pour ceux qui ont connu les lampes Berger.
Oui, oui.
Bon, bref.
Un truc qui pue et qui intoxique à tout le monde.
Bon. Bon. Oui. À la fin de la chronique, on a parlé d'Ernest. On fait Il y a eu un communiqué de la fabrique. Est-ce que on rappelle aux auditeurs qui n'auraient pas suivi l'actualité ce qui s'est passé ?
Alors c'est quand même assez grave, puisqu'en fait on s'attaque à l'édition, a priori, même si c'est de l'ordre de l'opposition ou du révolutionnaire ou de voilà, je sais pas quel champ on peut attribuer, ça reste quand même dans l'ordre des idées, puisque le camarade Ernest qui est un responsable des droits étrangers de la fabrique, qui est une maison d'édition française, au catalogue très intéressant, hein. Ceux qui ne connaissent pas, il faut y faire vraiment y faire un tour. Et il a été arrêté à Londres à l'occasion d'un salon auquel il devait participer et représenter donc la maison d'édition. Et il a été arrêté comme un terroriste, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas quel est le nom de l'organisme policier, je ne l'ai pas en tête, le nom de l'organisme policier qui l'a arrêté, mais qui l'a mis interrogé, il l'a mis au secret.
En garde à vue.
En garde à vue, ouais. Enfin, et donc, et ça, c'était le.
Il y a quelques jours.
Oui, quelques jours.
La semaine dernière, je crois, le week-end dernier.
19 avril, le mercredi 19 avril, on a eu le communiqué. Donc, il a été en garde à vue, en détention, par la police antiterroriste. Donc, on considère que une maison d'édition et son représentant. Ont une action terroriste et constituent une menace. C'est quand même assez grave, quoi. Alors, je ne connais pas le droit anglais, hein, mais il a été accueilli à son arrivée à la gare de Londres. Autrement dit, il a été renseigné, la police britannique a été renseignée par la police française.
Oui,
la police française a l'habitude de collaborer. Hein, c'est une tradition.
Oui, puis quand ça se passe à l'étranger, c'est pas de la faute de la police française, donc c'est pas elle qui fait un prisonnier politique. Quoi.
Ouais. Donc, c'est tout à fait, on peut pas porter la faute. Quoi. Donc le camarade a été interrogé pendant plusieurs heures, des questions lui ont été posées, parfois troublantes, comme le dit le communiqué. Son point de vue sur la réforme des retraites en France, sur le gouvernement français, sur Emmanuel Macron, son avis sur la crise du Covid, etc. etc. Donc, c'était un interrogatoire
multizonal,
multizonal. Il lui a été demandé de nommer les auteurs anti-gouvernementaux du catalogue des éditions La Fabrique. Autrement dit, la police britannique, dans son cadre d'activité antiterroriste, effectivement, a retenu que le catalogue des éditions La Fabrique était un danger, constitué un danger. Donc, mais tout ça, me semble-t-il, enfin, comme je ne connais pas, encore une fois, je ne connais pas le droit britannique, mais on sait que les Britanniques enfin, la police britannique, par ailleurs, s'est conduite comme ce conduisent la plupart des polices dans le monde, hein, faut pas se le cacher, assez mal avec les Irlandais, qui ont été traités comme des chiens.
Assez
comme
mal,
des...
c'est un euphémisme.
Voilà, c'est ça, assez mal, c'est pour pas dire comme des ordures, quoi, voilà. Qui est donc une police criminelle aussi. Hein.
Oui, torture, bah, assassinat.
Exactement, enfermement dans des conditions abjectes. Et donc, grâce à l'expérience de la collaboration de la police française, qui est quand même riche de plusieurs hauts faits par le passé en termes de collaboration avec l'ennemi, eh bien, a pu malmener le camarade des éditions La Fabrique, donc Ernest, et qui, bon, depuis est sorti. Et il doit se représenter. C'est-à-dire qu'il est... il est obligé de revenir. Alors, je ne sais plus à quel titre, mais ils lui ont demandé de se représenter aux autorités britanniques. Donc, il doit repasser le Chanel pour aller. Je ne sais pas quoi faire.
À sa place, je n'irai pas. Hein.
Ben oui, mais oui. Alors, oui, on peut se poser la question. Mais on est en plein dans la violence policière. Donc, le. Correspond effectivement à la chronique à cap de ce jour, qui est une des manifestations donc, de la violence policière, d'une des violences en tout cas. Mais c'est une violence d'État aussi.
Une violence d'État.
Ça, comme la police étant l'outil de l'État, la violence policière. Ah, il existe aussi une violence policière un peu autonome. Hein. On prend les voltigeurs, là,
les braves.
Ouais, les braves. Qui portent mal leur nom d'ailleurs, parce qu'ils sont braves que parce qu'ils sont deux et plusieurs et qu'ils sont.
Mais. Ils peuvent vite se barrer.
Ils peuvent vite se barrer parce que.
Bon, voilà. Au début, c'était bave peut-être, mais.
Ouais, c'est bave, ouais.
C'est la brigade de réception. De répression armée des voyous et de la police, ouais. Motorisée.
Ouais. Donc voilà, on a. On retiendra jamais. Enfin, on répétera jamais. On rappellera jamais assez que. Ils ont des prédécesseurs, ceux qui avaient qui ont tué Malik Oussekine,
les voltigeurs,
ouais, en 86, qui étaient ce même type de ceux qui n'ont pas réussi dans la voyoucratie et qui se distinguent dans la police, quoi.
Ouais, dans la violence d'État et de la police, il y a toujours des champs d'expérimentation, des endroits où on expérimente des nouvelles choses. Alors, ça a été dans les cités, le LBD, ça fait longtemps que dans les cités, ils s'en ramassent sur eux. Et après, il y a eu les Gilets jaunes, ça a été un petit peu médiatisé. Maintenant, c'est tout le monde a le droit à ses tirs de LBD, quoi. Les grenades à fragmentation. Et dernièrement, dans un département français ou presque, La Réunion, ils ont sorti leurs armes, ils ont tiré à vraies balles. Pour chasser du Comorien. Voilà. Comorien, bon, c'est pas grave, ils sont pas français. Donc on peut tirer. C'est-à-dire que le champ, là, c'est pas tout à fait la France, c'est des étrangers. En plus, ils sont bien noirs de peau. Donc on sort le pistolet et on tire en l'air ou par terre. C'est la version officielle. Mais voilà, le fait est là, ils ont sorti leurs vraies armes avec des vraies balles qui tuent pour de vrai, qui sont pas à létalité moindre, qui sont à grande létalité. Et ils ont tiré avec. Donc, un pas de plus. La violence d'État et policière.
Évidemment, ce qui va compter, me semble-t-il, c'est le degré d'acceptation de ce type de...
Des policiers
de, ouais.
Bah, ouais.
Par l'ensemble de la société française. C'est-à-dire qu'à un moment donné... tout découle de... On aura une émission sur l'anti-parlementarisme, sur l'anti-tout, d'ailleurs. Parce que c'est le départ, à mon sens, c'est qu'à partir du moment où on valide l'élection de députés qui eux-mêmes valident des crédits pour équiper les forces de répression policière, ben, en fait, on est entré dans la légalité, dans un type de légalité qui ensuite, faire marche arrière, ça devient compliqué. Donc en fait, il faut remonter aux origines du mal, un peu comme dans les bons films, remontant aux origines du mal. Et oui...
Oui, c'est toute la question de la légitimité de la violence d'État.
Bien sûr.
C'est-à-dire que oui, l'État a le monopole de la violence, mais ça ne veut pas dire qu'il a le droit d'en faire ce qu'il veut.
Il, il, en,
Le peuple est souverain d'après notre constitution.
Quoi. Oui, oui. Ouais. Alors ça c'est pareil, il a le monopole de la violence légitime, à quel titre ? Moi je pose, à quel titre ?
Au titre du monopole, c'est un truc qui se mord la queue, quoi.
Non, non, à quel titre ? Voilà, c'est pas une tautologie, hein. C'est à quel titre ? En fait, moi j'entends personne poser cette question, même un constitutionnaliste, on n'a jamais posé cette question, je suis sûr qu'il n'y a pas de réponse, en tout cas pas de réponse claire à ça.
À part la tautologie de dire, c'est nous qu'on décide, donc fermez vos gueules.
Et tant qu'effectivement il est accepté qu'un gouvernement doit décider à ta place, bah, ça légitime l'emploi de la police, le fait que la police réprime.
De la justice.
Bah, oui,
un manifestant envoie un caillou, il fait 6 mois de prison. Un flic envoie un caillou, il a un blâme et il fait 3 mois de suspension de rien du tout avec sursis. Voilà.
Et tant que les gens, ils accepteront effectivement cet état de fait d'avoir le parlementarisme avec des représentants politiques qui en fait ils font ce qu'ils veulent de la justice. Les lois qu'ils veulent, ça sera comme ça. Donc leur légitimité, ils le tiennent d'un mythe, mystique presque, d'une confusion peut-être mentale de ce qu'est le gouvernement.
De ce qu'est la République.
La République, oui.
Oui, c'est pareil, ça c'est...
D'une république.
Oui, la république, c'est pas un gros mot en soi, puisqu'en fait c'est la chose publique.
La chose publique, oui, bah, c'est leur façon de voir la chose publique.
C'est quelque chose qui est à nous et qu'on a délégué.
Quand tu vois...
Beaucoup délégué.
Parler de république, ça me fait penser à démocratie. Quand tu vois, quand tu entends les gens qui s'expriment dans les médias, les gens de la rue, tu leur tends le micro, ou même des spécialistes... tu leur demandes, tu leur parles des démocraties, ou ils évoquent la démocratie.
Ils parlent de la République.
Ouais. Ils parlent de choses qui sont en cours, en place, mises en place en France, parce que c'est pas forcément la même démocratie aux États-Unis ou dans d'autres pays. Il y a à chacun, chaque pays, chaque nation, chaque peuple national, je sais pas comment on peut appeler ça, estime que son pays est plus démocratique que l'autre, en fin de compte. Et qu'ils représentent la vraie démocratie. Mais en fait, ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. En fait, ils n'acceptent la démocratie qui repose sur une constitution, sur une déclaration des droits de l'homme, pas forcément suivie d'ailleurs, mais et sur un régime qu'ils n'ont pas mis en place, qu'une classe, la classe bourgeoise, a mis en place, et ils l'acceptent. Et comme voilà, tu vis plus ou moins bien, parce que y a des gens qui râlent dans la rue, qui manifestent, qui se font taper dessus, qui perdent des yeux, des mains, mais le reste de la population, ils ont rien. Hein, ils ont accepté je sais pas comment dire.
Être mis sous tutelle.
Ouais, voilà. Donc ils acceptent un repli sur soi qui fait que et le fonctionnement, on le remettra en cause. C'est de tout ça que le gouvernement tire sa légitimité du droit à la répression de...
Oui, entre autres.
De ce qui se passe dans la rue.
C'est le fait de déléguer son pouvoir d'individu, de personne.
Sa souveraineté individuelle.
Exactement. C'est la délégation, parce que, enfin, et elle peut prendre plein de formes, hein. C'est parce qu'on est, on est contraint par le travail, c'est-à-dire par l'aspect économique de survie, puisqu'on a besoin d'aller travailler, de produire ou de louer son temps personnel. Parce que c'est ça le contrat de travail aussi.
C'est l'option la plus communément répandue, on va dire.
Oui, j'entends bien, mais on pourrait reparler aussi des aides pour ceux qui ne louent pas leur temps de travail. C'est une forme de dépendance aussi. Je suis désolé. C'est une forme de dépendance parce qu'on doit manger, on doit se protéger du froid, on doit avoir un toit au-dessus de la tête. Donc, moi, je dis que c'est le système global, la construction de la société qui échappe à tous pour se mettre dans les mains, et puis on l'a un peu consenti, enfin on l'a, par défaut, on l'a un peu consenti, pour se mettre dans les mains de ceux qui deviennent des experts. Des experts de la démocratie, des experts de...
De l'opinion.
Voilà, des médias. Ouais, on est un petit peu responsable de ça, quoi. Et je trouve qu'on n'est pas beaucoup à participer, aux manifestations, même si c'est pas révolutionnaire, à exprimer notre désaccord, même si c'est pas révolutionnaire. Après, c'est la méthode qui peut être révolutionnaire. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, le fait de se réunir et puis de discuter entre nous, sans hiérarchie, sans chef, c'est déjà une forme de d'autres organisations. Alors, je sais pas si elle est révolutionnaire, en tout cas, une organisation qui est horizontale et qui... on est peu nombreux. C'est-à-dire, comme tu dis, l'écrasante majeure partie de la population, elle se manifeste pas. Alors que, a priori, on est... Les médias le soulignent. Même les médias...
Mainstream.
Voilà. Ils le disent. Il n'y a pas que le malaise des retraites, puisque les retraites, d'un point de vue pratico-pratique, ça touche une dizaine de générations. Enfin, une dizaine de générations, ceux qui sont...
Une dizaine.
Oui, c'est-à-dire que c'est la décade. Après, il y a un effet amortissement. C'est-à-dire que à 10 ans, on peut se préparer à avoir ce changement de recul à la retraite, de diminution, parce qu'il y a aussi ça, diminution des pensions. Ça, c'est une réalité. Personne n'en parle.
Non.
Mais ça, c'est une réalité.
Si les cadres. Les cadres moyens et petits cadres, ils ont les boules. C'est pour ça qu'il y a la CGC, CFE, parce qu'eux, ils payent cher. Grands cadres qui dépassent 120 000 euros par mois, non, ça va. Mais ceux qui sont en dessous, ils prennent cher.
Ouais. Et donc, sur 10 ans, ça va s'amortir, puisque, en fait,
Michael qui mène sa vie.
On a le temps de se retourner. Or, c'est pour nous, pour un certain nombre d'entre nous qui approchons effectivement de l'âge où on va pouvoir arrêter de travailler, passer en retraite, que là, c'est bien très très tendu, parce qu'en fait, c'est du court terme. C'est du court terme.
Oui, puis tu calcules le temps qui te reste à vivre
tu
et
peux pas te retourner.
Sur 7-8 ans, t'enlèves 2 ans, tu fais merde. Ça fait beaucoup.
Il faut penser aux pré-retraités. On vient de leur dire qu'il faut faire 2 ans de plus. Allez-vous là.
Il n'y a pas que ce
psychologiquement,
malaise.
À mon avis, tu dois manger. Cela, c'est pas 2 ans de vie de moins qui vont.
mais j'y retourne avec le manche de pioche.
En fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas que ce malaise-là. Il y a le malaise de on n'est pas représenté, enfin on a un sentiment, alors c'est assez diffus, quand ça interroge les personnes comme ça, en micro-trottoir, j'ai pas l'impression d'être représenté par des gens qui sont au pouvoir, sans vraiment savoir que, alors peut-être ont-ils voté, n'ont-ils pas voté, l'histoire ne le dit pas, mais de toute façon,
c'est pas leurs intérêts qui sont débattus au pouvoir.
Quoi. Et puis on gagne pas assez d'argent pour vivre, un truc tout bête, quoi. Les fins de mois, c'est le 10, quoi.
Des lentilles.
Et puis quel avenir pour nous-mêmes et nos enfants, pour les plus jeunes. On vit quand même dans un monde de plus en plus sale.
Ouais.
Parce qu'on le salit nous-mêmes.
Exactement.
On le salit nous-mêmes.
Bah oui. Enfin, je veux dire,
j'ai rien salué.
On participe à la destruction de l'environnement. Mais ça, c'est l'anthropisme, c'est un peu normal, sauf que ça s'accélère. Ça s'accélère. Et il n'y a pas d'idée. Enfin, je veux dire.
Trop de plastique, moi je dis.
Mais ça, c'est mort, c'est fini. C'est
le plastique.
Oh non, mais de toute façon, c'est trop tard.
Il y en a partout du plastique.
Il y en a partout.
Tu as commencé même à en ingérer.
Moi, c'est les lunettes. Il y en a partout. Les fermetures.
Donc tu vois, là, il y a une.
Les portables. Hein, tout.
Non, mais le plastique, tant que tu le portes dans tes lunettes, c'est pas grave. C'est quand tu veux t'en débarrasser.
Ouais.
C'est pas d'avoir du plastique sur soi qui pose problème.
Non, mais c'est pas prêt de disparaître, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est recyclé dans les
vêtements
usines,
synthétiques, par exemple, ça c'est une horreur. Ouais. Pour ça, j'en mets
c'est
pas.
C'est même recyclé pour faire
toutes les fibres synthétiques et partent petit à petit dans l'eau.
Oui, mais
là, il n'y a rien qui est filtré. Et ça se retrouve, la chaîne alimentaire, etc.
On parlait de lunettes.
Oui, non, je n'ai pas parlé de lunettes.
Oh, parce que même si tu te dis je consomme plus de plastique, c'est difficile, quoi. Ça existe pas.
Non, mais c'est pas. Moi, je préfère le choix d'acheter des lunettes en plastique. Mais je vais les garder toute ma vie. Bon. C'est déjà ce que je fais. J'ai pas le choix. Je peux pas les changer. Je peux même pas aller chez l'ophtalmo. les vêtements, évidemment.
Ça fait 20 ans, moi.
Puisque ça inclut dans les. Oui. Mais qui c'est qui nous propose ça? C'est les industriels. C'est pas mon choix. Oui. C'est mon choix d'acheter des lunettes en plastique. C'est pas mon choix d'acheter des vêtements fabriqués avec du plastique. Ouais. C'est pas pareil.
Alors, après, c'est aussi les. En tant que. Alors, c'est pour ça qu'on n'est plus. On n'est plus les maîtres, parce que c'est plus vraiment une démocratie au sens où on serait maîtres des choix qui permettraient un bouleversement, parce que le bouleversement radical, il est possible que s'il y a un effet de masse. Or, si, imaginons que on est, je sais pas quoi, 70 millions à peu près, je sais
en
pas.
France, ouais, ouais.
Imaginons qu'il y ait 40 millions de personnes qui décident de dire aux industriels, tu fabriques plus que des trucs en coton et en lin ou en. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait
en chanvre.
Ou en chanvre, ou en ce que tu veux.
Très bonne production.
Et on te prendra plus. Sinon, tu te dégages avec ton usine, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Ou alors, c'est nous qui allons gérer l'usine. Et on va produire. Avec tel type de matériaux, tel type de technique, tel mode de travail, tel mode de production, etc. etc. Et ça changerait tout. Oh, il n'y a pas 40 millions de personnes qui décident.
Ça serait la révolution, ça. Vous êtes sur Radio Liberté.
Oh, malheur. Malheur. Malheur de révolution.
Mettez la main dans la caisse pendant que les proles transpirent pour gagner quelques pièces. Vous qui magouillez à vous en foutre plein les poches alors qu'en bas ça trime pour faire becter les mioches. Vous vivez dans l'impunité toujours au-dessus des lois, intouchables comme des rois, méprisés les sans-droits. Vous qui contrôlez les destins de ceux qui ont que dalle et ignorez les douleurs, les cris de ceux qui ont mal. Vous donneurs de leçons même avec vos mains sales. Vous qui calculez le bétail électoral. Vous qui nous voyez comme un tableau de statistiques, comme un problème ou comme un enjeu politique. Vous la crème des crèmes politico-affairistes. Vous et vos visions d'amour du ultra-capitaliste. Vous, exploitants de la misère. Vous qui méprisez nos chansons de la colère. Préparez-vous à mordre la poussière. Attendez-vous à vivre l'enfer. Exploité, détestable prolétaire. Dominé, démuni, sont sur le pied de guerre. Écoutez les mélodies de l'insurrection. Écoutez bien. La masse est en ébullition, écoutez cet air qui me donne envie de monter le son. Il y a dans la rue comme un air.
Oh,
sens-tu comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air? Par-delà les nations, la révolte est planétaire. Ça ne sent pas la rose, non, ça sent plutôt le soufre. De ces moments de l'histoire où la roue tourne jusqu'à t'en couper le souffle. Vois-tu un à un tous ces peuples opprimés qui se soulèvent? Ce n'est peut-être qu'un début, mais ne pense pas que tout cela ne soit qu'un rêve. Quoi qu'ils en disent, ça ne sent pas bon pour nos rois et pour nos reines. Ça ne sent pas bon pour ceux qui jusqu'à aujourd'hui tenaient les rênes. Sens-tu comme un air de déjà-vu car l'histoire sans cesse se répète. Ceux qui prospéraient hier d'une manière ou d'une autre, demain ils laisseront leur tête. Dirigeants malfaisants, barons de la finance, gros bonnets de la bourse. Industriels exploitant la misère humaine comme dans un champ de course. Peut-être qu'après la victoire, ceux qui prendront le pouvoir seront les mêmes. Peut-être qu'on ne pourra jamais rien face à la folie humaine. Mais puisque nous sommes là, puisqu'on voit, puisqu'on vit sur cette terre, marchons la tête haute, soyons combattants, soyons révolutionnaires. Comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air. Comme un souffle de révolte, révolution planétaire. Comme
comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air, comme un souffle de révolte, révolution planétaire.
Peut le dire à l'antenne,
pas. Bah oui, on va le dire à l'antenne, Martine, puisque on est revenu sur l'antenne de Radio Libertaire.
On est là.
89.4. Vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail. Et.
Des nouvelles de Norbert.
Et on va vous donner des nouvelles de Norbert, parce que je dis qu'il n'était pas venu. Eh bah oui, alors, il n'était pas sur Paris, tant qu'il vienne, qu'il essaye de passer les barrages avec les flics, tout ça, bah, du coup, ça l'a mis en retard, et puis bah, il ne serait pas arrivé à l'heure. Donc il nous a appelé pour dire qu'il voilà, il s'excuse, mais il embrasse tout le monde.
Ah, on t'embrasse, Norbert.
Et puis voilà, et puis on le retrouvera une autre fois, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a une émission, une autre émission qui sera prévue avec lui, plus spécifique. Voilà. Donc, on est là aussi pour débriefer de la manif du 1er mai. Et donc, vous savez, chers auditeurs, qu'il n'y a pas que le cortège unitaire de tous les syndicats. Donc là, c'était, on va dire, une manif historique. Alors, par le nombre, je ne sais pas, mais historique, parce qu'il y avait la CFDT, FO, CGT, l'UNSA. Bon, la CFTC, je vous l'ai dit apparemment, c'était pas... Ils vendaient plus du muguet.
Je ne sais pas s'ils existent encore, la CFTC.
Mais si, ils sont là, ils sont là.
On a créé un syndicat, comme vous le savez, dans notre petit coin de campagne, à côté de la Grotte, dans l'Yonne, à Avallon. Et j'ai cherché à contacter tous nos voisins syndicalistes, toutes étiquettes confondues. CFTC, non, une antenne à Dijon, puis c'est tout. Quoi.
Bah, ils sont peut-être plus dans les centres urbains, je ne sais pas, dans les grands centres urbains. Mmh. Bah, c'est un petit peu comme la CNT, hein. Plutôt dans le centre urbain.
Peut-être.
Enfin bref, il y a cette manif, mais il y a aussi quand même le cortège libertaire qui part de la place des Fêtes, traditionnellement, comme j'ai dit à un habitant qui attendait à mes côtés aux toilettes publiques, près des Sanisettes, il attendait son tour. Il dit qu'est-ce que c'est que ça ? Manif libertaire.
On rencontre du monde aux toilettes, hein, c'est incroyable. Absolument.
Je rencontre toujours du monde. Bref, donc il a ce... Et puisqu'on a évoqué tout à l'heure les violences policières, il y a eu quand même il y a eu une banderole qui a été déployée contre les violences policières. Mmh. Voilà. Alors c'est Eric qui l'a sous les yeux, surtout. C'est l'État terrorise, s'appelle-t-elle. Cette banderole et ce mouvement qui se développe un petit peu en collectif, alors ponctuel ou pas, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas pour dénoncer les violences policières.
Collectif 22 avril, donc la date de la manif à Sainte-Soline.
Ouais.
Donc Sainte-Soline, 200 blessés quand même, hein, c'est énorme. Avec des...
En une heure de temps.
Hein. Ouais, avec la police qui était... Comme à la chasse à cour, en fait.
Ouais.
Ils étaient montés sur des quads et en dehors des tirs d'armes létales, parce que je suis désolé, quand on voit des grenades en tir tendu, ça fait mal et ça tue.
Ah, puis, c'était des chars, des blindés qui envoyaient des grenades. Ding, ding, ding.
6 par 6.
C'était quoi une grenade tous les 3 secondes ou une grenade par seconde?
Ils ont trouvé énormément de douilles.
C'est 5000 projectiles en 1h20, quelque chose comme ça.
Ouais. Ah, toujours est-il que ça, plus le terrorisme, parce que le terrorisme physique, parce que quand tu as un tir de barrage d'artillerie, tu peux te protéger, tu finis par. Mais en plus, il y avait des charges de quad. Ces trous de cul, ils étaient sur des quads.
C'était la Brave M, apparemment, qui était venue exprès, équipée avec des beaux quads tout neufs. Et du pognon là-dedans.
On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que.
C'était une innovation déjà.
Oui, une de plus. Et puis ils ont sorti les chars aussi, les fameux chars que Macron avait commandés l'année dernière.
Ah ben il y a du pognon, on a donné je sais pas combien de millions encore cette année.
Quand tu achètes des joujoux, tu as envie de jouer avec. C'est pas pour laisser dans la boîte.
Encore une fois, donc c'est l'État terrorise, effectivement. C'est le tract qui a été diffusé, qui a fait l'objet d'une banderole aussi. Donc avec ce collectif auquel le syndicat du commerce de la CNT région parisienne a participé. En tout cas,
syndicat
modestement.
STE 75, des syndicats des travailleurs de l'éducation de Paris, de la CNT aussi.
Et donc il y a une.
Je pense qu'on cite, non ? On cite que nous ?
Que nous, pas que nous.
On est comme ça, nous.
Bon, il y a des camarades aussi de la CNT AIT.
Il y a des camarades de la CNT AIT, il y a eu l'OCL.
Voilà.
Je dis parce que y a plein de gens qui pensaient que ça n'existait plus, l'OCL. Mais c'est l'Organisation communiste libertaire. Et quand j'en parle de l'OCL, il y a des gens qui disent non, tu te trompes, c'est l'UCL. Non, c'est l'OCL. Ouais. Il n'y a que les vieux comme nous qui savons ce que c'est, d'où ça vient, mais. Voilà.
Ouais, bref, c'était il y avait c'était important d'abord parce que l'État, évidemment, on parlait en début d'émission, l'État avait le monopole de la violence, mais on est passé au monopole de la terreur, parce que et puis la terreur officielle, qui n'est pas la terreur, bien sûr, qui est simplement l'ordre républicain, ça ressemble pas à ça.
L'ordre par la peur.
Oui, c'est ça. Ouais. Bah faire peur, ça. Faire peur, ça permet de calmer, d'empêcher les personnes de revenir. Se dire, moi, je vais pas aller. J'ai pris des. Même le bruit, c'est impressionnant. Il y a des personnes qui n'iront pas en manif avant plusieurs mois, sinon plusieurs années.
Il y a beaucoup de cas de tests post-traumatiques.
Donc, on est vraiment sur du terrorisme d'État et du terrorisme policier. Il ne faut pas. Et l'éco-terrorisme, c'est une c'est juste un abus de langage, quoi. C'est juste un abus de langage.
De quoi ?
L'éco-terrorisme, en contrepoint. C'est juste
Ça n'existe pas.
C'est monsieur l'autre trou de cul de ministre de la police qui a parlé, qui est une espèce d'abruti.
Mais là, il faut effectivement discréditer les mouvements.
Une espèce d'abruti inculte, ignare et abject, qui par contre, il est bien à son poste. Là, il n'y a pas de problème. Il colle au job.
Ils sont tous bien à leur poste.
Ils collent au job.
Tout ce qu'ils font. Il y a que les gens, justement, qui s'illusionnent sur les fonctions des ministres et puis des députés, mais surtout des ministres. Pour croire qu'ils font pas leur job. Les gens qui s'offusquent de ils ont fait passer le 49-3 quoi, ils attendent à quoi, les mecs, ils sont là pour ça? Non, je sais pas, ils sont pas là pour faire le bien de la population, pour l'enrichir, la population. Ils sont là pour enrichir d'abord leur classe sociale et puis faire marcher la société comme qui ne fonctionne pas sur une masse d'individus, mais sur une masse. Une masse nationale, et pas sur un collectif d'individus, en fait.
Donc, Sainte-Soline, la répression policière, qui est une. C'est même pas de la répression, c'est du terrorisme policier.
C'est de l'agression.
L'agression policière. C'est 200 blessés, dont deux qui sont dans un état grave. Ce sont pas des bavures. On est solidaire des blessés de Sainte-Soline, mais aussi de l'ensemble du mouvement social, parce que ça en fait partie en fait. Mmh. Mouvement social, ça ne veut rien dire. C'est cantonne ça simplement au fait syndical, aux manifestations contre la loi sur les retraites. Mais en fait, c'est comme je disais au début de l'émission, c'est il y a plus que ça. Il y a une espèce de. Alors la population ne l'exprime pas encore complètement. Il n'y a que les journalistes qui essaient de discréditer, comme tu viens de le dire, parce qu'on a encore écouté les émissions mainstream. Stream, je
ne sais pas comment, enfin,
bref, oui. Truc anglais, là. Et ils sont là pour discréditer systématiquement. C'est-à-dire qu'on parle d'anarchistes, on parle de. Mais ils tiennent tous le même langage, les mêmes éléments de langage pour bourrer la tête aux auditeurs en se disant. Le Black Bloc, d'abord ils confondent toujours Black Bloc et Black Blocs, parce que les Black Blocs ça veut rien dire du tout. Black Bloc c'est une technique, après on y met ce qu'on veut dans ce qu'il y a et c'est encore autre chose, c'est un autre concept. Et donc déjà ils sont abrutis parce qu'ils comprennent pas ou ils font semblant de pas comprendre.
Mais ils répètent surtout des éléments de langage du ministère.
Oui, et puis
de la présidence.
Mais je pense fondamentalement qu'ils sont une partie des journalistes sont totalement abrutis, c'est-à-dire que on a le droit de se tromper, on n'a pas le droit de répéter sans cesse les conneries qu'on écoute. C'est pas possible. Ça veut dire qu'on est complètement con soi-même. Quoi.
Je pense qu'à un moment, ils comprennent qu'il faut continuer le jeu, comme ça, ils continuent à ramasser du pognon, ils gardent leur place. Enfin, ils marchent dans le système, quoi.
Ouais,
comme les politiques qui entretiennent leur classe, eux aussi entretiennent leur classe.
Je crois pas qu'ils soient cons. Hein.
Non.
Je crois qu'effectivement, je suis d'accord avec Michael. Rappelle-toi avec les Gilets jaunes, avec le mouvement des Gilets jaunes. Tous les Gilets jaunes, de toute façon, les journalistes n'avaient plus aucun crédit auprès des Gilets jaunes, parce qu'ils racontaient totalement n'importe quoi, absolument pas ce qui se passait vraiment dans le mouvement, c'était...
C'est des anarchistes fascistes d'extrême gauche, d'extrême droite, racistes...
Ça a été des fascistes, des antisémites, ils ont tout essayé vraiment pour les discréditer, quoi. C'était quand même honteux, et tout le monde s'est rendu compte.
Vous pouvez être tous les deux d'accord, mais c'est moi qui ai raison, parce que ça reste des cons. L'un n'empêche pas l'autre.
À long terme, ils ont tort dans une vision plus grande du bonheur en société, bien sûr qu'ils ont tort.
En fait, c'est, à mon avis, leur vision réductrice, elle est à la fois liée au milieu auquel ils appartiennent, et puis ceux qui leur donnent à manger aussi, et puis... Leur idéologie, je pense, parce que sinon ils n'appartiendraient pas à ces médias. Ils n'appartiendraient pas à ces médias s'ils n'adhéraient pas un minimum à la logique Bolloro, compagnie. Mais en même temps, c'est des abrutis. Enfin, il y en a certains. Tu sens le manque d'intelligence, quoi. Le manque d'intelligence dans le regard.
Il y a des pros dans ce domaine-là, je pense.
Mais le problème, c'est que tu as utilisé le mot con.
Oui.
Qualificatif con. Oui. Le problème, c'est qu'on y met un petit peu tout ce qu'on veut. Donc
c'est vrai.
Et moi, j'y mets dans quelqu'un qui n'est pas très malin. Oui. Alors qu'effectivement, c'est peut-être pas comme ça que tu le voyais, parce qu'effectivement, ils font le job qu'on leur demande. Ils sont sans doute convaincus du bien fondé de ce qu'ils racontent.
Comme tu disais,
c'est ça qui est peut-être dramatique. C'est là où ils sont cons. C'est là qu'ils deviennent abrutis. Ils sont abrutis. C'est que eux aussi, ils ont accepté le système. Ils ne veulent absolument pas le remettre en cause. Tant que ça leur paraît être un système démocratique, c'est-à-dire qui respecte
la
représentativité des élus. Voilà. Tant que l'autorité est tenue par des gens qui ont été élus par le peuple souverain, comme
oui,
disait Michael.
Leur...
supposé peuple souverain, parce que le peuple souverain. Souverain de pas grand chose, et puis c'est pas tout le peuple souverain qui les élit. Hein. Et on se rend compte à chaque élection qu'il y en a de moins en moins du peuple souverain qui vote pour ces gens-là. Bon, enfin voilà. Donc, je pense qu'ils sont mal intentionnés, les journalistes.
Ah, je partage. Une partie d'entre eux est très mal intentionnée, oui. C'est du.
C'est du parti pris déjà. Déjà, effectivement.
Donc, c'est pas des journalistes.
On pourrait croire aussi que les journalistes sont plutôt de gauche. En fait, tu vois, qui ont une sensibilité de gauche, qui ont... Mais non, c'est pas des socialistes, hein, c'est des...
C'est des commerciaux, ils vendent quelque chose.
Ouais, hein. puis ils peuvent être convaincus de...
Ils vendent du temps d'antenne.
Eux aussi, ils vont dans les bureaux de vote, eux aussi, ils votent, eux aussi, ils choisissent leur représentant, et ça peut être des mecs de droite, d'extrême droite, de... Voilà. Mmh. C'est pas des gens neutres, ils sont pas neutres, ouais. Hein, les journalistes, hein, ils sont pas neutres.
Et
nous, on n'est pas neutre, mais nous, on n'est pas journaliste. Ouais. Et fait de la propagande.
Voilà.
Et nous, on le dit.
Et puis, ce qui nous ramène aussi, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on soit si peu nombreux à manifester notre hostilité à des projets qui nous touchent tous. Enfin, je veux dire, c'est aussi. Ouais. On était combien, Martine, toi qui as des chiffres?
Et puis, on n'a pas beaucoup entendu, Martine.
Mais non, vous parlez.
T'as pas
tout
fait
temps,
la sieste tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Alors, 550 000 à 600 000, mais finalement...
Sur Paris
Sur Paris, ouais. Mmh. Mais finalement, non, c'était 112 000 selon...
La préfecture.
Ah non, c'était plus que ça.
Bon, allez, 113.
300 cortèges dans toute la France.
Ah, c'est bien ça.
2,3 millions dans toute la France. Mais bon, les chiffres...
D'après la CGT.
D'après la CGT.
Oui, bah tu cites.
Ah oui, non, si c'est sûr, cites, c'est d'après c'est la CGT, mais d'après, c'est 112 000 à Paris, c'est quand même...
D'après
c'est,
la préfecture.
C'est un gap, quoi, ouais,
sûrement,
la différence.
Plus que 112 000 à Paris.
Non.
Le fait qu'il y ait effectivement...
Mais bon, est-ce que ça a un intérêt de savoir combien on était?
C'est comme un thermomètre, ça donne la température, quoi.
C'est exactement. Ouais.
Ça donne la température.
Bah ouais.
Oui.
Tu vois, une petite ville comme Avallon, par exemple, ou Auxerre, dans le Lyon, où il n'y a jamais de manif. À Vallon, il y en a eu deux, des manifs, là, ces 6 dernières années. C'est 2 manifs de gilets jaunes, et c'est un peu moi qui ai poussé au cul pour que ça se fasse. Mais voilà, c'est tout, quoi. Et maintenant, il y en a. On va faire une casserolade devant la mairie, on est 50. Et c'est pas que les mêmes habituels contestataires, il y a des nouvelles têtes aussi qui viennent petit à petit. Auxerre, les manifs plan-plan syndicales, d'habitude, c'est 800 000 personnes. Et là, régulièrement, ça dépasse les 2000, 3000, quoi.
Oui, mais qu'est-ce que ça change?
Ben, ça change qu'il y a plus de monde qui sort les doigts du cul.
Ça fait du bruit.
Ah oui, après, oui, bien sûr. Bah, évidemment, si tout le monde se syndiquait dans les boîtes et qu'on prenait l'outil de production, ça changerait tout. Mais on n'en est pas là.
Alors, par contre,
parce qu'il y a de la répression dans l'entreprise.
Parce que
tu commences à te syndiquer.
Alors, ce que tu as donné, c'est ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est les 300 villes.
300 cortèges.
300. C'est, à un moment donné, on était à 75 au début, vous vous souvenez, c'était 75-80 en janvier, février. Ils se disaient, les journalistes, alors ils commençaient à se dire on ne peut pas ne pas dire qu'en même temps, merde, il n'y a pas qu'à Paris, parce qu'habituellement c'est République Nation, puis terminé, au revoir tout le monde, quoi. Et là, il y avait des. Dans les grandes villes, ils parlaient des grandes villes, Rennes, Nantes, là où ça chauffait. Hey, salut Nantes, salut Rennes, de la Bretagne. Et là, on a, même dans les petites villes, les sous-préfectures, on a des manifestants et ça couvre en fait l'ensemble du territoire français. Et ça, c'est un... Moi, je crois que c'est tu disais que c'était pas intéressant les chiffres, moi je dis que c'est le chiffre de 300 là, sur 300 cortèges, ça veut dire que on a... En fait, c'est peut-être là où il y a quelque chose à espérer. C'est pas simplement un mouvement qui est parisiano-centriste et qui est... mais où tout le monde, finalement, enfin, à différents titres, peut-être pas tout le monde, mais enfin, à différents titres, au moins en partiellement, qu'on se sent concerné par ce qui se passe. Et pas uniquement pour les retraites, je tiens à le dire. Les retraites, finalement, pour moi, c'est qu'un prétexte. C'est important.
C'est important. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres.
Ouais, c'est un prétexte, exactement. C'est un prétexte.
La goutte d'eau qui met le feu aux poudres. L'étincelle qui fait déborder le vase. C'est monsieur de Champignac.
Et comment tu l'expliques?
Je ne sais pas si tu vas revenir.
Comment tu expliques ça, qu'il y a de plus en plus de monde dans les manifestations et que...
Parce qu'il y a un moment de...
Plus il y a de monde, j'ai l'impression, moi, ça fait... Moi, il y a de résultats.
Alors, y a...
Réellement, hein.
Parce qu'il n'y a pas... Maintenant, on est... Parce qu'il n'y a pas de... D'abord, les manifestations les plus violentes et les plus remarquables, parce qu'il n'y a que ça qui retiennent. Oh, ça s'est bien passé, ils utilisent le terme, on a entendu.
Bon enfant.
Bon enfant, pacifique ou pacifiste, parce qu'ils ne savent pas la différence entre pacifique et pacifiste. Hein, oui. Ces abrutis. Ouais. C'est comme des abrutis des journalistes.
Pacifique, hein, festive, hein. Vrai, bon festive. Enfant.
Mais ils font pas la différence.
Des manifestants déguisés, j'ai entendu. Des pancartes anti-Macron, des fumigènes, de la musique, mais c'est vrai.
Ils font même des fautes de français. Des
ben oui.
C'est vrai qu'il y a de la musique.
Pas vrai, Bénédicte?
Oui, complètement.
On t'entend pas, faut allumer le micro. Hein.
Je l'ai allumé.
Ah, mais il faut allumer le micro quand même.
Il faut parler dedans.
Je suis à 7, volume niveau 7.
Est-ce que ça fait une manifestation réussie?
Une manifestive, oui, c'est ce que tu disais. Soit ça brûle et puis ça passe à la télé, effectivement. Ouais. Soit il y a des blocages importants aussi, qui ne passent pas forcément à la télé. En revanche, le gros patron du CAC 40, quand il a bloqué 5-6 magasins de sa chaîne, Amazon, Auchan, Carrefour, Monsieur Total avec son pétrole, là, ça a de l'impact, effectivement.
Mais je ne sais pas si tu as raison, parce que, en fait, dès que. On ne voit pas de blocage d'entreprise. Alors qu'il y a des grèves dans les entreprises, il y en a partout, tout le temps. Ça fait 3-4 mois qu'il y a des entreprises, des petites. Regarde, chez
Verbaudet.
Six semaines, six mois, non, je ne sais plus combien. C'est pas un truc énorme.
Voilà, les salariés, il y a la moitié des salariés qui sont en piquet de grève devant l'usine. Ouais.
Non, c'est dans l'air. Ouais.
Et. On n'en parle pas parce que ça c'est et c'est pourquoi on n'en parle pas parce que c'est là
qui
va renverser la table. C'est pas Bastien.
Oui, mais alors, Verbaudet, il y avait 50% des salariés qui étaient en grève. Il y en a comme 50% qui travaillaient. Oui, c'est bien, mais c'est pas.
C'est énorme.
On n'arrête pas le.
Mais oui, alors c'est avec des actions. Effectivement, c'est plus avec des actions concrètes de cet ordre que des manifestations. Les manifestations. Ça devrait permettre justement à transmettre un petit peu des infos, si tu diffuses des tracts et d'autres. Alors, des infos sur les mouvements sociaux, sur le mouvement social, donc je sais pas comment, ou les mouvements sociaux, sur effectivement les exactions de la police, sur. Voilà, c'est un moment de communion, on pourrait presque dire. Bah, tu te retrouves, tu festoies, mais tu montes ta colère, comme ça se faisait au 19e siècle, hein, à fourmis, tout ça. Tu sors, tu me dis que t'es pas content, mais d'un autre côté, tu fais savoir que t'as fait des grèves, des blocages.
Ah oui, ça
fait partie des slogans de la CNT. Hein, c'est le gouvernement ne connaît qu'un langage, grève, blocage, sabotage. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça qui fonctionne.
Oui, alors la grande nouveauté, c'est les drones. Vous avez entendu parler de ça? Les drones.
Oui.
Il y avait des drones aux manifestations. Non, on ne les a pas vus,
pleuvait. Je ne me demande pas.
Alors, ça, c'est la grande nouveauté, quand même.
Je ne sais pas combien il y en a eu.
La manifestation du 1er mai.
Mais il y a eu un recours aussi pour.
Mais il y a eu le recours, mais le recours a été. A été débouté. Oui. En fait, il y a eu des drones. Voilà.
Ah oui, il y a une loi qui est passée, là, c'est ici pour les JO.
Et des drones, pourquoi faire Pour
ficher tout le monde avec.
C'est-à-dire que normalement, ça doit être encadré, quoi. Ça doit être.
Non, c'est tout neuf, il n'y a pas
Il n'y a pas de reconnaissance faciale.
Si, la reconnaissance faciale a été retoquée, je crois.
Oui, elle a été.
Mais pas l'utilisation des drones.
Non, pas l'utilisation, mais sans reconnaissance faciale et sans filmer les intérieurs.
Officiellement.
Les intérieurs des habitations.
C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas s'en servir officiellement contre quelqu'un.
Bah donc.
Officiellement.
Enfin.
Que font les Milans? Bon alors, camarades, adoptez un Milan.
Mais ça, il paraît que ça se fait partout, en Allemagne, en Italie, en Chine. On se doute.
Ils élèvent des Milans?
Non, les drones. Et même en province, à Lyon, Nantes, etc. Oui.
Ou sinon, de petits écrous avec un élastique entre les deux.
Ouais.
Ça marche bien dans un lance-pierre. Ça marche pas mal aussi.
Ça va ?
Voilà. On se donne des petites recettes, tu vois, c'est des petits conseils.
Non, mais là, en revanche, c'est un outil technologique en même temps que la flicaille est équipée de caméras de plus en plus précises et en fait ils fichent tout le monde t'étais à la manif, t'es fiché, ils vont garder même s'ils n'ont pas le droit parce que rien juge va dire ouais, t'as pas le droit, mais ils n'ont rien à foutre parce que la police est au-dessus du droit. Il y a blablabla du con à l'Assemblée qui va dire « Bon non, nous on regarde rien, je vous promets, je le jure sur... »
La preuve, c'est qu'on est l'État, donc oui. On obéit aux lois de l'État, puisqu'on est l'État.
Alors qu'en fait, ils gardent, oui, ils gardent les...
Je suis étonné.
Donc l'État policier... Bah oui, mais c'est, là aussi, on est... moi, je vois, à part quelques groupes qui soulèvent contre ça, il y a tous ces trous de cul à l'Assemblée, ils ont voté ce truc-là.
Oui.
Bon, bah, les mecs, les gens, réveillez-vous, quoi.
La droite, l'extrême droite.
Mais même, ça veut rien dire. Alors, moi, droite, extrême droite, gauche, extrême gauche, pour moi, ça ne veut rien dire.
Bon, ils votent pas tout à fait pareil, quand même.
Mais pour voter quoi?
Sur le fichage, sur le.
Attends, hé. Hey, depuis Mitterrand, c'est des trous de balles. Ouais. Depuis même avant, mais avant, j'étais
petit. On va faire une émission sur l'anti-parlementarisme. Ce sera peut-être l'occasion de revenir là-dessus.
Et le 1er mai, aujourd'hui, c'est l'expression aussi de cet abus de pouvoir. Abus de pouvoir policier, ouais. Politique, et qui nous confisque, nous, notre pouvoir à nous, réel, souverain.
Donc on était sur cette banderole.
Oui.
Ce texte contre les violences policières. Et peut-être que avant de mettre une musique, parler du communiqué des parents de Serge, ouais. Puisque Serge est sorti du coma, puisqu'il était dans le coma, mais il est sorti du coma, donc il est conscient, mais... Sans savoir qu'elle. Alors, c'est pas.
Il ouvre les yeux.
Voilà, il s'est pas levé du lit pour aller faire de la trottinette. Hein. Son pronostic vital est toujours engagé.
Ah ouais.
Et.
Il a ouvert les yeux, c'est tout.
Hein. Oui, oui, oui.
Alors, le communiqué des parents qui date du mercredi 26 avril. Disent, je vais dire 3-4 phrases qui sont importantes à mon sens, c'est « À ce jour, il est impossible, je cite, d'affirmer que Serge va recouvrer ses esprits et l'usage de son corps, ses membres et ses sens, sa capacité de respirer, de parler ou d'évaluer les séquelles de sa blessure et une rechute infectieuse demeure à craindre. Son pronostic vital reste donc engagé, c'est pourquoi nous dénonçons toute utilisation qui pourrait être faite de la sortie de son coma. » Effectivement, il est sorti du coma. Serge est malheureusement fort loin d'être tiré d'affaire. Prétendre le contraire serait un pur mensonge. Signé les parents de Serge. Donc, je crois que. On a dit.
Est-ce qu'il faudra qu'il paye un jour toute cette flicaille, tous ces politiciens? Moi, je pense que oui. Mais, on ne sera peut-être pas là pour le voir. Puis, ils seront morts déjà, tous ces gens-là.
Mais, alors, pour le.
Mais franchement.
Ouais. Et. Alors, avec Martine, quand on a quitté sous la pluie, on était boulevard du Temple.
Oui.
Et on a été sur une rue, on allait au métro, et d'un seul coup, on a vu des flics à moto qui disaient aux manifestants... C'était la brave.
C'était la brave.
Ils ont été hués.
Hués, hein.
Ils ont été traités d'assassins.
Oui, par les c'était même pas des manifestants,
non.
C'était des badauds.
Des badauds, des gens aux fenêtres.
Bon, les gens qui habitent là, aux fenêtres.
C'est une information qui est, et on l'a vu, on l'a entendu, et nous aussi, on l'a créé assassin, bien sûr.
Vous êtes partis en courant aussi.
Non, parce que. Et par contre, ils se sont retournés sur les motos, et quand ils ont vu qu'effectivement tout le monde criait assassin, des fenêtres, mais de la rue aussi, ils n'ont pas insisté. Ils ont continué leur chemin. Mais je pense qu'ils avaient un peu les boules quand même. C'est des petites victoires, mais c'est ceux qui font mal.
Ils seraient bien arrêtés dégommer un œil ou un
testicule. Je pense, oui. Pour certains d'entre eux, oui.
Sure.
Vous êtes sur Radio Liberté à 89.4 MHz, vous écoutez Le Monde Merveilleux du Travail et vous venez d'entendre... C'était les betteraves ou...
Je ne sais pas, c'était En Marche, mais je ne sais pas.
Bref, qui. Les betteraves ou Guérilla Poubelle, je dirais pas que c'est la même chose, mais c'est pas loin, c'est à peu près le même groupe.
Guérilla
c'était
Poubelle.
Guérilla Poubelle, voilà, qui interprétait En Marche. Voilà, merci Bénédicte, elle est quand même intervenue. Ouais,
ça fait plaisir, elle suit.
Alors, on était sur la...
Sur la criminalisation du syndicalisme, mais aussi c'est,
ouais,
c'est,
voilà, hein, voilà.
Parce que répression policière, c'était quand même dans le cadre d'une manifestation syndicale, de syndicats en tout cas. Aujourd'hui. La répression qui s'est opérée en tout le long du cortège jusqu'à Nation, déjà des Nation n'étaient pas encore arrivés. Vous n'étiez pas encore arrivés que déjà la flicaille tapait sur. Tout ce petit monde un peu libre.
Quand je suis parti, moi, il commençait d'encercler la cour de Vincennes pour faire une nasse géante.
Bah oui.
En général, il vaut mieux pas trop rester dans la nasse, parce qu'après.
Alors, le syndicalisme. Est-ce que le syndicalisme est une menace? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a une volonté des États en France, mais aussi en Espagne, de la criminalisation du syndicalisme et des mouvements sociaux. Parce que c'est une réalité. Et en Espagne, il y a 6 militants qui ont été condamnés, des militantes qui ont été condamnées chacune à 3 ans et demi de prison pour leur activité syndicale.
Alors, ça leur fait 21 ans de prison au cumulé.
Voilà. Et quel est leur crime? Se sont montrés solidaires, sans violence aucune, mais avec obstination, d'une travailleuse de la pâtisserie La Suiza, que ses patrons harcelaient en même temps qu'ils ne lui payaient pas son juste salaire. Donc, en fait, une action syndicale qui est tout à fait normale, dans le cadre du droit du travail.
Ce sont des femmes?
Oui.
Seulement? Que des femmes?
Oui.
Ah oui.
Et en plus des femmes. Donc, il y a une...
Et en plus des femmes, ouais.
Donc, il y a du sexisme, très vachement, du machisme. Ce qui, pour un État...
C'est facile, quoi.
En criminalisation du mouvement social, ça vient ajouter, et on n'est pas étonné. Hein.
C'est comme battre son chien, c'est facile.
Comme tout à l'heure, de toute façon, on disait que la police ont des liens, il y a un lien international entre toutes les polices. Là, il n'y a pas de Brexit qui se fait avec, avec l'Europe. Et socialement, c'est pareil.
Exactement. Donc,
sachant que quand même que le gouvernement espagnol, l'actuel gouvernement espagnol est issu du Parti Socialiste, semble-t-il.
Oui, c'est exact.
Tous ceux qui croiraient que parce que le gouvernement est socialiste ou quoi que ce soit, ça va... ils vont être plus gentils, plus doux, mon cul.
Alors, je vous rappelle, messieurs, madame, que on avait eu un Valls qui était socialiste.
Ouais.
Pas mal aussi celui-là comme enculé.
Socialisme de droite.
Ouais. Je sais pas, enfin, qu'il se réclamait du Parti Socialiste. Hein,
Mais c'était
faut pas confondre socialiste et du Parti Socialiste.
Mais le président Hollande avait quand même dit oui, c'est le Parti Socialiste, mais on fait de la social-démocratie.
C'est ça.
Un peu comme du Gustav Nosk.
Social-démocratie.
Je rappelle Gustav Nosk, pour ceux qui auraient oublié le nom, c'est quand même ce socialiste qui a réprimé les spartakistes en Allemagne dans les années 20.
Ouais. Donc on est vraiment.
Enfin, ils ont réprimé. Non, ouais. Ils ont fait assassiner Rosa Luxembourg et puis.
Karl Liebknecht. Voilà. Ah oui. Et puis, un peu comme nos Pandores contre les Comoriens. Avec des armes de guerre, forcément, ça les calme directement.
Mais là, avec leurs armes de service à balles réelles, oui.
Exactement. Donc, pour ces 6 militantes, condamnées chacune donc, à 3 ans et demi de prison, donc solidarité internationale, contact et information, uber.rp@cnt-f.org, contactez la CNT, bureau régional, pour manifester votre solidarité avec ces militantes du mouvement social qui ont été réprimées et qui sont réprimées injustement et surtout en dépit de toute
puis de toute façon, c'est les travailleuses qui ont défendu leur gagne-pain, ouais. C'est le cas de le dire, hein, dans une boulangerie-pâtisserie. Ouais. Et voilà, quoi. Nous, on n'est pas juge, on n'a pas jugé ce qui s'est passé. On est là pour défendre des camarades qui sont défendus.
Exactement. Donc, solidarité avec les filles de la Suisse.
Ouvrière.
Ouais. Avec les travailleuses. Les filles.
Les filles.
C'est amical.
Tu leur as demandé déjà si c'était des filles. Travailleuses. Peut-être sont filles, on ne sait pas.
Ah, peut-être une ambiguïté. Ouais. Oui.
Mais non, rien, j'ai pas tout entendu. J'étais obligé.
Bon, donc retour de manif, pour revenir à retour de manif, oui. Je crois qu'on a une petite. On a fait une petite rencontre. Enfin, c'est surtout vous qui avez fait une rencontre. Oui. J'ai eu du mal, moi, à voir qui c'était, parce que non seulement je vous vois de moins en moins aussi.
Si tu nous as pris en photo.
Ben oui, mais forcément. Mais
c'est vrai qu'on la reconnaissait pas.
Ouais. Ouais, après
c'est
un
Rodolphe
coup de.
Qui l'a reconnu,
ouais. Après un coup de.
Non, on l'a pas changé, je trouve. Donc c'était Monique Pinson Charlot.
Pinson Charlot. Oui.
Voilà.
Ouais, on a fait un selfie.
Qui est donc une sociologue.
Ouais.
Qui travaille sur l'accaparement de la richesse par la grande bourgeoisie.
Ouais, qui travaille sur les grandes bourgeoisies. Sur les grandes bourgeoisies, ouais. Avec son défunt mari, ouais. Qui était deux chercheurs, qui ont commis quelques ouvrages sur cette classe sociale, si on peut appeler ça.
Oui, oui.
Mais bon, alors. L'échange était brave, c'était plutôt sympa, hein, sur le coup. Sauf que je pense que elle est un petit peu. Je crois que ses recherches créent un filtre avec la réalité, me semble-t-il.
Moi, bah, je sais pas.
Non, mais je crois qu'elle avait peut-être autre chose à foutre aussi que de nous parler. Parce
peut-être.
Que, hein?
Bon, ce qu'elle nous a dit, c'est que les très riches commençaient à avoir un petit peu les chocottes.
Les riches tremblent.
Tremblez, bourgeois. Alors, ils tremblent parce qu'ils sentent bien qu'il y a... Non, il y a quand même quelque chose qui se passe, là.
Ah, quand on dit les... Oui, les très riches, oui. Pas forcément le petit patron qui a la tête dans le guidon, ce que disait aussi.
Non, les voisins.
Tu vois, qui fait marcher son commerce avec ses salariés, même s'il y en a 100, 200. C'est plutôt vraiment ceux qui...
Mais comme dit Mickaël, j'ai l'impression qu'elle répète ça depuis...
Moi, depuis que je l'entends, oui, j'entends dire ça, mais...
Depuis combien de temps depuis... Alors,
elle le dit à des moments spécifiques. Elle dit pas tout. Quand elle l'a dit, par exemple, quand les Gilets jaunes sont venus enfoncer des portes de ministère, essayer de rentrer à l'Élysée, etc., voilà, là, c'est à ce moment-là, oui. Et là, les tremblois bourgeois, les bourgeois tremblaient. Et effectivement, ouais, il y avait une peur, mais là c'était la peur de la populace, tandis que là la peur elle est plus syndicale, c'est-à-dire, tu sais, Michu, dans ces 5 entreprises, il y en a 3, ils sont en grève, il a une perte de 70% de son chiffre d'affaires. Voilà, c'est cette peur-là, quoi.
C'est vrai qu'il y a eu puisque tout à l'heure, Martine, tu évoquais le fait que. Qu'est-ce qui peut. Je ne sais plus comment tu l'as formulé, qu'est-ce qui a changé, mais est-ce que le nombre peut faire quelque chose ? C'est vrai qu'il y a eu des manifs, notamment pour la loi travail, enfin contre la loi travail, des manifs syndicales, qui n'ont pas donné grand-chose, où je pense qu'il y a les syndicats et la CGT, notamment, ont commencé à perdre un peu des adhérents, parce que, bah, en fin de compte, les gens se sont rendus compte que les travailleurs, mais les gens, ouais. Bah, se sont rendus compte que ça n'avait pas l'air de servir à grand-chose, les syndicats, surtout les grandes centrales qui négociaient avec les patrons du gouvernement. Ça a été, deux ans plus tard, on a eu les Gilets jaunes, qui, eux, se sont passés de syndicats, et qui ont manifesté, voilà, spontanément, sur des trajets qui ne sont pas Nation-Bastille, comme République-Nation, oui, comme disait Eric, des itinéraires qui n'étaient pas habituels, conventionnels, pas très dirigés, où là, le gouvernement a eu peur aussi. Parce que là, il y avait quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Il savait qu'en plus, il n'avait pas d'interlocuteur en face. Quand tu as des syndicats, bah, tu as des interlocuteurs. Tati, bon, d'accord, vous faites ce trajet, ça va se passer comme ci, comme ça. Fait, ils disent ce qu'ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils se racontent, hein, je ne suis pas dans
oui,
leur...
Oui, ça peut être canalisé, quoi. Là.
Les mouvements sociaux...
C'est ce qui se fait, c'est nassé.
Les mouvements sociaux, syndicaux, ont été remplacés par un mouvement social de gilets jaunes, de personnes inorganisées, un peu très incontrôlables. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est... C'est une récupération dans le sens. Ou plutôt, les syndicats se réapproprient peut-être leur place d'un interlocuteur avec le gouvernement. L'interlocuteur aussi entre la population, les travailleurs et le gouvernement. Mais sans pour autant retomber dans les travers qu'il y avait. 2015, un petit peu avant 2015 aussi. Donc, vas-y, Michael. Alors, tu voulais...
Dans le même ordre d'idée, j'ai remarqué que les syndicats et l'intersyndicale, sans compter la CNT, reprenaient ce qu'on faisait nous au syndicat à la région parisienne, par exemple. C'est-à-dire que quand il y avait un piquet de grève, c'était pas seulement le syndicat spectacle qui faisait son piquet de grève, qui assurait le piquet de grève, mais c'était l'ensemble des syndicats de la région parisienne, de la CNT. Et là aussi, il y a des piquets de grève, par exemple, aux poubelles, qui sont rejoints par des salariés en grève, et quel que soit le syndicat, c'est pas forcément le même d'ailleurs, les salariés en grève du transport, par exemple, du chemin de fer, qui viennent sur des piquets de grève de poubelles.
Une solidarité interprofessionnelle.
Quoi. Voilà, ouais, ouais. Et là, il y a un retour à la base qui se fait, qui dépasse un petit peu les hiérarchies fédérales et confédérales.
Mais justement, les leaders syndicaux avaient besoin de ça.
Qui fait peur aussi à certains leaders syndicaux, ouais. Mais surtout aux patrons, parce qu'ils ne peuvent plus appeler le chef de la fédération, je ne sais pas, propreté, et puis dire, bon, vos gars, vous me remettez au travail, on va trouver une solution, parce que c'est à la base maintenant qu'il faut aller négocier le truc.
Justement, je pense que les syndicats, il y a une unité syndicale en ce moment. Je pense qu'ils se refont une virginité sur cette base, au propre qu'on me figurait. Mais
quelque chose à te dire par rapport à ça.
Ne fais pas de woman spinning, s'il te plaît.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les gilets jaunes, le mouvement s'est arrêté parce qu'il y avait une répression. Il y avait une répression qu'il n'y a pas avec les syndicats, par exemple. Parce que j'ai entendu des jeunes quand on a manifesté. C'était la 11e manifestation.
Parce que les syndicats, il y a un interlocuteur.
Les jeunes disaient, on se met derrière la CNT parce que comme ça, on est protégé, en gros. Quoi. On se met derrière le syndicat, on se met avec eux. Nos parents nous ont dit, des jeunes, tu l'as entendu ça aussi, un lycéen, manifester. Il disait, on se met derrière les syndicats, nos parents nous ont dit de se mettre derrière les syndicats, c'est plus prudent, parce qu'on ne va pas se prendre...
C'est plus prudent, mais...
C'est plus prudent.
Les syndicats, il y a, un cordon de sécurité.
C'est pas pour les 100 euros que Macron a déboursé.
Non, mais alors, effectivement, c'est la répression. C'est ce que disait Eric tout à l'heure, la terreur, la violence... policière a mis à mal effectivement le mouvement des gilets jaunes. Il est mort, le mouvement des gilets jaunes.
Il bouge encore, il y a toujours une ou deux manifs le samedi sur Paris.
Mais là on en attendait une centaine, moi j'en ai pas vu.
Ça sera pas comme ça a été,
franchement.
On est bien d'accord.
T'en as vu toi?
Bah moi.
Mais toi, c'est ton...
Non, mais arrêtez de faire de l'entre-soi. C'est comme ça me saouler.
Non, mais je suis pas d'accord pour laisser dire que le mouvement des gilets jaunes est mort. Il est enterré à 6 pieds sous terre, mais il existe
mais
encore.
Tu vas trouver toujours des personnes pour mettre un gilet jaune et puis aller dans la rue.
Et puis déposer des manifs sur Paris. Par exemple, ou ailleurs.
Ils font des manifs toutes les semaines, là?
Oui, tous les samedis. Ah,
arrête de dire des conneries.
Tous les samedis, ils posent, je t'assure. Moi, je te les enverrai, mais tous les samedis, il y a une manif gilet jaune sur Paris. On en est au 235e jour. Ils sont 100, 200,
voilà.
Des fois plus.
Donc, arrête de dire des conneries. Je ne parle pas de 100 ou 200 personnes. Le mouvement, peut-être qu'il a été... il existait en 2017, c'est mort, ça n'existera plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gilets jaunes.
Les grenades et les LBD ont fait le tri, je suis d'accord.
Voilà. La différence, c'est que... Voilà, donc, les syndicats ont... Ils ont été discrédités pendant le mouvement des gilets jaunes. Ils ont été discrédités par les gilets jaunes, parce qu'ils faisaient pas leur boulot, c'est tout. Parce que justement, comme disait Michael, on appelait le secrétaire de fédération pour trouver un arrangement, et puis on mettait un mouvement qui emmerdait le patron. Voilà. Là, les syndicats, ils sont obligés de laisser la base s'exprimer. S'ils veulent récupérer un petit peu des adhérents, justement, pour des adhérents et puis de la crédibilité. Voilà. Mais combien de temps ça va durer? C'est ça le truc.
Et puis il y a une concurrence gilets jaunes aussi. Il y a un syndicat de gilets jaunes qui se monte, qui se développe en termes de progression. Il est pas mal du tout. Hein. Il va bientôt dépasser la CNT, je pense. Alors qu'on est super nombreux. Et en plus, ils ont leur bureau dans le 16e. Autant dire que c'est un syndicat sérieux, pas comme nous.
On a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense qu'effectivement, là, c'est simplement, comme dans tout mouvement social, il y a une perspective historique, on va avoir un mouvement de balancier. Effectivement, aujourd'hui, les structures pyramidales, hiérarchiques des syndicats, laisse un peu la base effectivement s'exprimer, et puis ça va revenir, parce que à un moment donné la base, comme elle n'est pas habituée à s'auto-organiser, elle va se raccrocher à quelque chose qui est les hiérarchies, et à ce moment-là la hiérarchie va reprendre le lead, donc le pouvoir, mais c'est simplement une question de temps. Donc je pense qu'effectivement le mouvement social est d'une inefficacité redoutable, encore une fois. C'est-à-dire que, à force de dire on n'accepte pas la violence, sans définir ce qu'est la violence, violence légale, violence légitime, violence d'État, etc., sans donner des définitions, et de se dire ok, on fait ça pour tel objectif et on va aller au-delà de ce qu'on fait habituellement. Alors, la violence, pas forcément la violence la plus spectaculaire, mais la grève générale, je suis désolé, mais c'est un type de violence, par exemple. C'est un type de violence. Aucun syndicat, je parle de l'intersyndicale, puisque la CNT n'est pas dans l'intersyndicale. Aucun syndicat de l'intersyndicale n'appelle à la grève générale, à quelque niveau que ce soit. Alors peut-être tu vas me trouver des structures, une UEL,
petite précision, oui. En local, il y a des intersyndicales avec la CNT.
Pas national.
La Manche,
tu en as parlé à l'instant.
Mais au niveau national, non.
Oui. Alors, peu importe, et c'est pas pour dire qu'on veut entrer dans l'intersyndicale, ça n'a pas d'objet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tellement éloigné du fonctionnement de ces centrales.
Des bureaucraties, quoi.
Que j'ai certainement pas envie de me retrouver à sucer la roue de Sud ou de l'UNSA ou tous ces syndicats de merde qui, par ailleurs, ne cherchent qu'à une seule chose, c'est leur représentativité. Pour avoir quoi, des permanents?
Et je voudrais terminer là-dessus. Moi, c'est vraiment comme ça qu'on a une chance, je pense, de faire progresser la lutte finale, la lutte de classe. C'est dans un même lieu, un même espace, se retrouver les différents constituants des forces vives contestataires, quoi. Quel que soit le syndicat, quelle que soit l'appartenance d'organisation, gilets jaunes, libertaires ou autres. Mais se rejoindre, se soutenir, faire les choses ensemble, localement. Et peut-être on avancera comme ça sur le fédéralisme communal, un petit peu. Voilà, et reprendre le pouvoir, au moins chez nous.
C'était la conclusion de Michael.
La prochaine fois, on invitera Nicolas Flamel.
Je ne sais plus si à l'antenne, j'ai évoqué Norbert, que j'ai annoncé.
Si.
Je l'ai fait?
Non, mais tu l'as fait.
D'accord.
Non, mais je ne sais plus si je l'avais dit hors antenne ou.
C'est
pas beau de vieillir. Voilà, on le retrouvera, Norbert. On ne le retrouvera pas forcément la semaine prochaine, dans 15 jours, parce que le 15 mai, nous allons faire une émission sur l'antiparlementarisme. Eh oui. Le 29 mai. On va parler des gilets jaunes.
Le 29 mai.
J'attends la confirmation quand même du camarade
Barbu, là.
Jérôme.
Jérôme.
Voilà. On va recevoir Jérôme Rodriguez. Voilà.
Peut-être. Ça sera très, je pense que c'est une émission très intéressante.
Oui. Ah, j'ai demandé à des collègues du Rond-Point, qui est encore actif d'Auxerre, si vous voulez mandater quelqu'un ou me donner matière à discuter. Bah, ils sont un peu le nez dans le guidon, la contestation. J'ai pas encore eu de retour formel. On dit oui en principe, mais donc, voilà.
Bon, en tout cas, le premier, donc là, le 15 mai sera l'anti-parlementarisme pour le monde mérite du travail. Mais vous devriez retrouver les copains du STE 93, hein, c'est-à-dire le syndicat des travailleurs de l'éducation du 93, dans leur émission sur Radio Libertaria et du 93. Ce sera le 9 mai. Sachez que l'éco-syndical, on en parlera la prochaine fois. Bon, on va laisser l'antenne au Protons Rebif. Bien sûr, et ben c'était pour savoir si tu faisais attention. Voilà, Christelle qui m'engueule.
Encore
avec tes
bonnes.
La biche de Lyon.
Merci Béline d'avoir assuré la technique. Et puis,
on va vous laisser avec nous. Vive la révolution.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes. Et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe, regarde la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier,